Mardi 23 avril 2019, il vient d'être 18h. Vous êtes en compagnie de Rukayat Abdourahmane pour la présentation du journal en français. À la une de cette édition, au moins 126 Nigériens attendent d'être rapatriés de la Libye et 221 autres sont détenus dans les prisons libyennes. À suivre dans ce journal, une interview de l'ambassadeur du Niger en Libye. À Agadez, les producteurs maraîchers souffrent des conséquences dues à la baisse de la nappe phréatique. Les explications de cette baisse avec le directeur régional de l'hydraulique. Direction Dosso en fin d'édition où notre reporter Hawa Ousmane s'est entretenu avec le chef de canton de l'Arewa sur l'historique de cet héritage vieux de 5 siècles et qui a vu la succession de 33 chefs. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au moins 126 Nigériens attendent encore d'être rapatriés de Libye et 221 autres sont toujours détenus dans les prisons libyennes, rapporte Al-Husseini Mouloul, ambassadeur du Niger en Libye. Toujours selon le diplomate nigérien, une centaine de personnes a été rapatriée la semaine dernière avec l'appui de l'Organisation internationale pour la migration OIM. Il est joint au téléphone par Tarnan Foudé Ahmed.
Au niveau de l'ambassade, on organise des rapatriements de concert avec l'OIM. On a déjà fait un vol il y a 3-4 jours. Le vol donc a fait Tripoli, Misrata, Niamey. Maintenant, on envisage également de faire un autre vol parce que tous les jours, il y a des rafles.
Il y a combien de Nigériens parmi tous ces refoulés?
Uniquement des Nigériens, il n'y a pas d'autres nationalités.
On peut estimer le nombre de ceux qui attendent les rapatriements?
Actuellement, on a 126 détenus. Ça, ce sont des détenus pour cause d'immigration illégale, c'est-à-dire des sans-papiers. Et ensuite, 221 détenus, eux, ce sont des gens qui ont commis des crimes, sont jugés, ils sont en prison.
Vous avez obtenu leur rapatriement?
Non, ceux qui ont commis des crimes, nous, on ne s'en occupe pas. En priorité, on s'occupe de ceux qui n'ont pas de papiers.
La campagne « Ramenez-nous nos femmes et nos filles » relativement aux femmes enlevées en juillet 2017 à Ingelewa, région de Diffa, connaît un silence ces derniers mois. Néanmoins, le travail se poursuit encore sur le terrain, selon Moussa Tchangari, secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen, l'une des organisations en charge de la campagne. Aussi, il invite les autorités à informer l'opinion nationale et internationale de l'urgence de la situation. Il est au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
Nous continuons à être mobilisés, nous ici, Alternatives, mais aussi d'autres acteurs continuent à faire un peu d'activisme sur le cas spécifique des filles et femmes d'Ingalewa. Pendant un moment, il était encore déjà arrivé à communiquer d'une certaine manière avec les gens, mais après, ça a été beaucoup plus difficile. On sait qu'il y en a qui sont vraiment en vie. Je ne saurais vous dire plus. Je ne peux pas vous dire maintenant à l'heure où on est-ce qu'elles sont toutes en bonne santé, est-ce qu'elles sont en vie, comment elles vont. Les autorités devraient faire l'effort de chercher des informations et si elles détiennent quelques informations que ce soit, ce serait bon que ces informations soient communiquées aux familles et même à l'opinion d'une manière générale, partant du droit à l'information.
Les réfugiés nigériens installés à Garin Ahmed, commune de Bangui, région de Tawa, ont bénéficié du soutien du Programme mondial alimentaire, le PAM, en début de ce mois et dans un avenir proche, celui de l'ONG Samaritan's Purse. Le point avec le deuxième maire adjoint de Bangui, Sani Salissou, joint au téléphone par Alassane Kouzi Mahamadou.
Ils ont amené du mille et FV sur la farine, l'huile, 45 bidons.
Donc en gros, c'est des sacs de mille.
Oui.
De la farine, c'est ça?
De la farine, oui.
De l'huile.
Parmi les 805 bénéficiaires, ils ont servi 104 ménages de déplacés, soit 428 personnes. Et après, donc, ils ont dit que, comme déjà on a promis d'aider les familles d'accueil, donc on a compté 77 ménages d'accueil, soit 372 personnes. Il y a Samaritan pour, ils ont distribué des cartes. Et ce sont l'équipe non alimentaire qu'ils vont donner. Des nasses, des serviettes, des dessous, ça qu'ils ont prévu.
Et c'est pour quand?
Bon, jusqu'à présent, on est en train de les attendre.
À noter qu'avant la distribution du PAM, plus de 100 réfugiés étaient déjà rentrés chez eux au Nigeria. En cette période de grande chaleur, les maraîchers de la région d'Agadez se heurtent à un sérieux problème de baisse de la nappe phréatique. En conséquence, les producteurs de blé, de pastèque, de melon ont baissé considérablement, témoigne Ahmed Ouda, président de la Chambre régionale d'agriculture d'Agadez. Les raisons de cette baisse, selon Ahmed Ouda, au micro de Moussa Maman.
La nappe a baissé dans certaines zones. Et au niveau de certaines zones, vous savez qu'il y a eu tellement d'écoulements, les inondations, mais quand même qui n'ont pas pu à la nappe de se recharger. Et dans d'autres zones, il y a tellement de problèmes. Là, il y a des gens qui ont diminué leur culture, qui ont diminué leur surface d'exploitation par rapport à ces problèmes de baisse de la nappe. La nappe est tellement profonde. Il y a certains même qui n'ont même pas commencé parce qu'il n'y a même pas de l'eau. On n'a pas cultivé de grandes surfaces de blé, de grandes surfaces de pastèques, de grandes surfaces de melons, de manioc, tout a été diminué par rapport aux années. Il y a même d'autres qui n'en font rien même.
Les producteurs maraîchers des zones de grande production de la région d'Agadez font face à la baisse de la nappe phréatique. L'exploitation accrue des superficies sans adéquation avec la ressource d'eau disponible est la cause de cette baisse selon le directeur régional de l'hydraulique et de l'assainissement d'Agadez. Lawali Rabo au micro de Moussa Maman.
Aujourd'hui, on exploite une superficie énorme, alors que les ouvrages, en tout cas, qui étaient exploités par le passé, ont le même débit que ces ouvrages d'aujourd'hui, ou même moins. Parce que c'est des ouvrages vraiment qui captent l'aquifère tributaire de la pluviométrie ou de l'écoulement des courries, pour ceux qui nous concernent, particulièrement dans la zone de l'Aïr, où on enregistre en tout cas le plus grand nombre d'agriculteurs. La solution, il faudrait que les gens fassent une adéquation entre vraiment le territoire à exploiter et la ressource eau disponible, c'est-à-dire la capacité de leur ouvrage qu'ils ont. Est-ce que véritablement leur débit permet vraiment de faire face à leurs besoins, quelle que soit en tout cas la période de l'année? Ou alors faire des ouvrages de recherche de la nappe autour de ces puits?
Quant aux agriculteurs du département de Mayaï, dans la région de Maradi, ils s'activent pour la campagne agricole 2019 par le défrichage et la fertilisation des champs. Issoufo Abou, cultivateur du village de Doukoudoukou, commune de Kanambakati à Maradi, lance un appel aux autorités afin d'avoir à temps des semences et les engrais. Il est au micro d'Issoufo Chaibou.
Nous procédons au désherbage, nous débroussaillons les épines, puis nous balayons pour préparer les champs. Cela veut dire que nous utilisons de l'engrais à l'éparpillant ça et là sur les surfaces cultivables afin de les apprêter pour l'hivernage. D'abord, nous manquons les bonnes semences, nous n'avons pas les semences d'Imil, d'Iniébé. Aussi, nous manquons d'engrais. Vous voyez, nous avons besoin de beaucoup de choses. Un premier appel aux autorités, c'est d'abord l'assistance en engrais. Nous avons vraiment besoin d'engrais de bonne qualité pour avoir de bonnes cultures. Souvent, c'est quand nous avons fini de semer qu'on nous fait parvenir des semences. Quelle utilité donc à cet instant? C'est maintenant l'on devrait nous en fournir afin de les stocker. Qu'on nous les envoie en ville pour dépôt, les confier aux autorités locales pour chaque localité. Même d'autres personnes compétentes peuvent en être mandatées. Donc si ces stocks sont disponibles dès les premières pluies, chacun pourrait en bénéficier pleinement et utilement.
Remblayer l'immense ravin de Zaria menaçant les populations est la question centrale de la deuxième session ordinaire de la délégation spéciale de Maradi qui se tient cette semaine. Tout en indiquant que l'agrandissement de ce ravin est d'un grand risque pour les populations et l'économie locale, le deuxième vice-président Mansour Lawali déclare qu'un appel d'offres a été lancé pour le besoin. Il est au micro de Mohamed Mama.
C'est une grande préoccupation, la procédure de passation de marché. Déjà, l'étude a été faite. Si on arrive à finir la procédure d'attribution, directement l'entreprise va commencer à travailler, à redresser la voie là. Une mise à l'état de la voie. Le ravin sera vraiment compté dans l'histoire. Si les ravins là s'agrandissent, c'est des maisons qui vont s'effondrer. Et vraiment, c'est des maladies, des inondations. Vous voyez, d'un côté, vraiment, il y a l'aspect économique et social qui sera mis en jeu. Donc, c'est une grande préoccupation. C'est pour cela que nous, vraiment, on a mis ça dans notre priorité. On veut vraiment l'attaquer, finir une fois pour toutes.
Aujourd'hui, 23 avril, consacre la journée mondiale du livre et du droit d'auteur qui vise à promouvoir la lecture, l'édition et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Sambo Mustapha, chargé de la documentation au Bureau nigérien de droit d'auteur BNDA, décrit le processus pour permettre à l'auteur de jouir de sa création. Il est au micro d'Atahir Rafika.
Le droit est respecté sur tous les ouvrages qui sont protégés dans notre répertoire au niveau du BNDA. Lorsque un livre est ici au BNDA, il n'est pas susceptible d'être exploité sans l'aval de son auteur ou sans passer par le Bureau nigérien du droit d'auteur qui délivre l'autorisation exclusive. En cas de fraude ou de piraterie, l'auteur est tenu de signaler cet état de fait au niveau du Bureau nigérien du droit d'auteur. Il nous amène l'exemplaire du document fraudé, plus l'adresse du fraudeur. À partir de là, il y a une convocation qui lui sera délivrée. Se présente et on cherche un règlement à l'amiable. Ça aboutit souvent à un dédommagement de l'auteur. S'il y a une persistance ou un refus du fraudeur, on constitue un dossier et on envoie à la justice. Chaque 6 mois, une répartition. En ce qui concerne les littéraires, la répartition se fait annuellement. Compte tenu du recouvrement qui n'est pas aussi large, nous privilégions les auteurs qui ont des ouvrages édités sur le marché et qui ont plus d'un an d'adhésion au niveau du Bureau nigérien de l'auteur. La redevance varie en fonction des perceptions.
Le logo présenté par le Comité national d'organisation de la 101e édition de la fête tournante de la République Tillaberi Tchandalo 2019 a suscité diverses réactions sur les réseaux sociaux. Toutefois, des possibilités de révisite ou d'amélioration du dit logo sur la base des suggestions objectives sont envisageables, explique Boubacar Seyni Gagara, communicateur du programme Tillaberi Tchandalo, joint ce matin au téléphone par Gungu Mamanda.
L'idée, on l'a présentée comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est définitivement retenu. On attend des observations scientifiques et objectives. Un logo, c'est de l'art, c'est vraiment la culture. Chacun voit dans l'art sa propre projection. Ce que moi je considère comme beau, quelqu'un le prend pour l'est, quelqu'un peut avoir une autre appréciation.
Par rapport aux observations que les uns et les autres vont apporter, est-ce que vous êtes prêt à tenir compte et procéder à des corrections de ce logo?
On prend les observations vraiment les plus objectives, on tient compte de ça et on améliore le logo. Le logo a été présenté justement pour que les gens puissent le voir et pour qu'ils puissent faire des observations s'ils en ont, et nous on tiendra compte des observations objectives.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
Et puis la partie magazine de cette édition, l'une des plus vieilles chefferies du Niger, celle de l'Arewa dans la région de Dosso, daterait de plus de 5 siècles. 33 chefs traditionnels se sont ainsi succédés. Notre reporter Hawa Ousmane s'est entretenu avec le chef actuel du canton de l'Arewa, son Altesse Amadou Sabo, qui fait l'historique de cet héritage.
33e chef du canton de l'Arewa, intronisé le 13 avril, Elhaji Amadou Sabo a succédé au défunt Elhaji Amadou Gao. L'honorable Elhaji Amadou Sabo raconte l'historique de la chefferie de son canton.
Soudé Arawa, Asulinsu, Dagaborno, son Keto.
Les Maoris sont originaires du Borno. Leur ancêtre est venu de Borno et il est arrivé ici. Il a trouvé la Faronia et le Baoura. Il s'est marié ici il y a de cela 500 ans environ. Et à ce jour, je suis le 33e chef du canton. La chefferie est composée de 4 lignées. Il y a les Bozarawa, il y a les gens de l'Est, il y a les Guébé et il y a les Bilawa. Ils sont tous de la même lignée. C'est donc au fil du temps qu'est intervenue la dislocation de cette lignée et qui s'est reconstituée en bloc d'héritiers. À l'heure actuelle, ce sont les Maoris qui assurent la chefferie de l'Arewa.
Dans la chefferie de l'Arewa, la femme a-t-elle sa place?
Bien sûr, puisque lorsque je suis arrivé au trône de cette chefferie, les femmes ont 2 responsabilités dans la cour. Il y a la responsable des femmes de l'Arewa, il y a la Magadia. Elle est la mère de tous, la mère du chef.
Quel est le rôle fondamental de la femme à la cour?
La Saraounia s'occupe de toutes les questions féminines et la Magadia, elle demeure la mère de tous, la mère du chef. Donc, elle s'occupe de tout ce qui a trait à la population de l'Arewa et même par rapport au chef, car elle lui donne des conseils et on peut même lui adresser des plaintes par rapport au comportement du chef.
Par rapport à leur relation avec les autres femmes du village, comment elles exercent leurs fonctions?
Je crois que vous avez eu l'occasion de voir à travers la télévision les actions qu'elles ont eu à mener dans le domaine de la salubrité, de l'humanitaire, etc. Cela prouve que les femmes apportent leur contribution et ces mêmes femmes
ont apporté plusieurs contributions à la Cour. Aujourd'hui, pour toute activité qui concerne les femmes, quelle que soit l'activité, elles sont toujours à l'avant-garde et cela nous réconforte et nous rassure. La Cour est composée de plus de 40 personnes. En dehors des deux femmes, il y a les Mefada, les Waziri et bien d'autres.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et au revoir.